Au mois de mars 2022, nous avons pu réaliser un entretien avec Aziz Jelab, sociologue habilité à diriger des recherches, docteur en sociologie et en sciences de l'éducation, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et professeur des universités associées à l'Université Paris-Lumière. Il a notamment écrit sur le travail d'insertion en mission locale, puis a entre autres travaillé sur le lycée professionnel et l'éducation prioritaire. Son dernier ouvrage, paru en 2021, qui a servi de base à notre entretien, s'intitule « L'école à l'épreuve des incertitudes, plaidoyer pour une institution émancipatrice ». De cet entretien, nous avons tiré plusieurs chroniques audio. Ici, il reviendra sur l'école face aux incertitudes.
La notion d'incertitude, elle vient un peu en contrepoids d'une certaine représentation, on peut dire, des institutions et en particulier de l'école, à savoir quelque chose de relativement stable, de relativement figé. Et l'incertitude est une notion à laquelle je donne un double sens, à la fois le fait que ça met en jeu en tout cas le fait que la réalité sociale, la réalité économique, politique, et on en a des exemples aujourd'hui, sont des réalités qui sont totalement changeantes et que l'école, de toute façon, elle ne peut pas y rester insensible. Donc, en fait, l'incertitude, c'est il faut en prendre acte. Ce sont des changements, ce sont des éléments, des mutations qui ont lieu. Et donc, ça, c'est le premier sens, on peut dire finalement le sens le plus banal du terme. Mais il y a un autre sens qui me paraît important à souligner, c'est qu'en fait la notion d'incertitude, elle vient aussi nous apprendre à être un peu modeste. C'est-à-dire qu'on voit bien d'un point de vue historique qu'il y a quand même tout un imaginaire qui a été structuré autour de l'idée que l'homme va maîtriser le monde, qu'il va avoir effectivement une certaine omnipotence pour gérer tous les événements un peu qui arrivent. Et en fait, on voit bien qu'il n'en est rien et que ça apprend à une certaine modestie. Et donc, ça rappelle aussi à l'école comme institution, qui est un peu basé sur des savoirs établis, tout ce qu'on veut, mais ça rappelle aussi à l'école qu'elle a un rôle majeur à jouer de façon à ce que l'incertitude n'apparaisse pas comme quelque chose d'anxiogène, mais quelque chose avec lequel il faut faire, il faut composer d'une certaine manière. Alors bien sûr, on ne peut pas composer de façon béate, hein, c'est bien composer en tenant compte d'un certain nombre de difficultés, d'un certain nombre d'épreuves. Voilà. Donc en fait, vous l'avez bien souligné, l'incertitude, je n'en fais pas quelque chose de forcément négatif, mais quelque chose avec lequel il faut aussi, finalement, il faut une certaine vigilance et il faut développer aussi, alors par exemple, si on prend les enseignants, développer aussi des capacités à faire face à de l'inédit. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui me paraît important.
Est-ce que vous pensez que l'institution scolaire est prête justement à gérer cette incertitude?
Est-ce que l'école est prête? Ce qui est intéressant, c'est d'avoir observé que, d'abord, l'institution, elle est là. C'est-à-dire que, contrairement à des idées qu'on a pu entendre, et c'est un peu l'objet du livre, c'est contrairement à l'idée selon laquelle, par exemple, les institutions sont répressives, elles sont liberticides, bon, on a toute une littérature en sciences sociale qui était quand même pas très positive vis-à-vis des institutions. Je pense par exemple au livre de Michel Foucault, Surveiller et punir, ou aux travaux de Goffman sur asile, ou voilà, qui montrent bien qu'il y a des institutions un peu totales qui sont un peu envahissantes, etc. Or le problème, c'est qu'on voit que concrètement les institutions n'existent que par les acteurs. Hein. Et donc une des idées que je développe, c'est que si on a pu faire face, c'est d'abord que l'institution était là. En même temps, cette institution, elle a dû autoriser un peu plus de liberté aux acteurs. Parce que pour maintenir une continuité pédagogique, il fallait pas seulement compter sur des circulaires ou des textes, il fallait aussi faire face dans l'urgence. Et faire face dans l'urgence, on a vu quelque chose de très paradoxal. À la fois, d'un côté, les enseignants, par exemple, la première préoccupation, c'est de dire comment on maintient le lien avec nos élèves. Hein. Ce qui montre aussi la dimension humaine de la relation pédagogique. Hein. C'est l'élément fondamental qu'on a souvent tendance à minorer. Et en même temps, il n'était pas toujours assuré que ça allait être quelque chose d'efficace. Donc, il y avait un besoin d'être rassuré. Et par conséquent, L'institution, elle a pu faire face parce que les acteurs ont pu s'autoriser quelques libertés, même s'ils ont été accompagnés, il faut bien le souligner. Mais s'ils ont été, ils ont pu s'autoriser quelques libertés. Et donc, pour pouvoir maintenir cette envie, ce désir de pouvoir maintenir la continuité pédagogique, il faut aussi développer une autre modalité de gouvernance et une autre modalité d'accompagnement. C'est pour ça que je pense que l'avenir de l'école ne sera pas celui comme avant. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de développer davantage d'un accompagnement de proximité et des initiatives qui s'appuient aussi sur le local. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le national, mais ça veut dire qu'il faut repenser un peu cette gouvernance, ce que je dis aussi dans le livre.
Alors, est-ce que cette incertitude, elle va venir aussi interroger ce qui est transmis à l'école ou peut-être la manière dont c'est transmis?
Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que d'abord, la crise sanitaire, elle a sans doute bousculé un certain nombre de lignes. Par exemple, on a pu faire des enseignements à distance qu'on n'aurait jamais pu imaginer en période dite ordinaire. Donc la nécessité aussi, c'est-à-dire finalement une forme de rupture de l'ordinaire, conduit à ce qu'on fasse peut-être preuve d'un peu plus de réalisme. C'est-à-dire en gros, il fallait s'adapter, donc le numérique est apparu non plus comme un obstacle, mais comme un atout. Mais il a reposé d'autres problèmes. Par exemple, le fait que la relation pédagogique est devenue tout à coup beaucoup plus individuelle et personnalisée que face au groupe classe. Donc, quand vous interrogez les enseignants, c'est ce qui apparaît, j'imagine aussi dans vos enquêtes. On avait affaire à des individus à distance, même si on a créé des classes un peu virtuelles, mais ça a modifié la nature de la relation aux enseignants. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'école, on le sait, historiquement, elle n'a jamais été transformée uniquement à travers des acteurs internes ou à travers des réseaux internes. Il y a toujours eu, historiquement, des événements externes qui sont venus bousculer un peu l'organisation scolaire. Par exemple, si on prend le développement de l'université, de l'enseignement supérieur, c'est aussi parce qu'il y a eu un accroissement des effectifs qui a amené à ce qu'on réfléchisse à comment on crée des universités. La coéducation fille-garçon, elle est arrivée aussi parce qu'il a fallu scolariser massivement autrement dit, des problématiques nouvelles apparaissent suite à des changements qui sont liés aussi à des facteurs, on va dire, de démographiques, par exemple. Bon. On peut aussi rappeler que toutes les éducations A aujourd'hui dans l'école viennent aussi dire que l'école n'est pas un univers fermé, contrairement à ce qu'on croit. L'école est ouverte sur des questions de société, des questions qu'on peut appeler socialement vives, comme le développement durable, etc. Donc le changement, il va venir aussi de cette réalité, et je pense, j'en suis même très convaincu, qu'une des missions fondamentales de l'école à venir, c'est comment elle part de l'expérience des élèves sans abandonner sa mission de transmission d'une culture et d'un savoir. Et je reprends l'exemple que vous connaissez, qui est celui du numérique et des réseaux sociaux. Je veux dire, si l'école veut lutter contre la désinformation, ce n'est pas en développant des actions d'information, de EMI, de façon massive, c'est en développant aussi un esprit éclairé et critique. Et donc, là, on a vu avec la pandémie que, par exemple, vous avez suivi les débats sur le vaccin et les experts qui viennent dire, voilà, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et les élèves, ils regardent un peu cette réalité comme leurs parents et ils découvrent, et ça, de mon point de vue, ça peut être aussi intéressant pour former les élèves, ils découvrent que derrière des débats scientifiques, il y a des enjeux non scientifiques. Des enjeux de pouvoir, des enjeux de domination, des enjeux, voilà. Et donc, comment on les éclaire? Eh bien, l'école, elle a encore cette mission et donc elle ne peut plus, peut-être plus qu'avant, je pense, elle ne peut plus considérer finalement que l'école est une institution sanctuarisée et que les questions qui se passent en dehors ne la regardent pas. Ça n'est plus possible, en fait. Et donc, la question de comment l'école doit éduquer à l'esprit éclairé et critique, effectivement, passe aussi par la familiarisation des élèves avec la démarche scientifique, et la démarche scientifique autour de l'administration de la preuve, autour de la contestation scientifique, autour des arguments scientifiques. Ce qui permet d'ailleurs au passage de dire que derrière la démarche scientifique, il y a aussi des valeurs. Hein. Et je crois aussi derrière cette idée de démontrer, il y a un enjeu de démocratie. Hein, parce que, vous l'avez bien vu, j'insiste beaucoup sur les risques que nous connaissons, c'est-à-dire la désinformation, on a aussi finalement, alors au-delà des fake news, le complotisme, on a aussi la menace du code obscurantisme. Et donc, la démarche scientifique, elle est aussi là pour éclairer les citoyens. Et vous voyez, donc, c'est presque, on pourrait dire, on trouve un peu du Condorcet, mais c'est un peu un enjeu aussi historique, c'est-à-dire comment on éclaire les élèves à travers quelque chose qui se dit à travers une démonstration et qui vient aussi, et qui me semble fondamental, qui vient aussi pour lutter contre ce que j'appelle le relativisme. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec l'emprise des médias, il n'y a pas que les médias, mais aussi l'emprise parfois d'un certain nombre de croyances, de façons de voir, on tombe dans le relativisme qui conduit à ce que les élèves considèrent qu'une information ou une opinion, c'est la même chose qu'un concept ou un théorème mathématique, pas du tout. Donc, il y a un enjeu de démocratie, et j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas que la transmission des savoirs, c'est aussi la transmission des valeurs. Thank you.